Le psaume sous les étoiles, chapitre 7. Alors commença pour moi une vie extraordinaire de fièvre, de sursaut et d'aguets. Je m'attachais à Florette comme son ombre. Je la caressais et la rudoyais tour à tour, sans pouvoir altérer l'ineffable candeur de son sourire. Une jalousie frénétique et sans objet défini me tenaillait. Nous courions la garrigue et les bois, brûlions des églises, massacrions des persécuteurs et des traîtres, bousculions l'ennemi, lui enlevions courriers et détachements, puis nous disparaissions brusquement au nez de Monsieur de Broglio pour reparaître le lendemain à 5 lieues de là. Tout exaltait maintenant nos courages, et de nouvelles recrues sans cesse grossissaient nos rangs. Pour moi, je ne pensais qu'à une chose. Florette n'était pas ma femme. En marche, au combat, j'étais le chef de brigade attentif à tout. Au repos, je me torturais lamentablement et parfois je faisais pleurer Florette. Au hasard de nos courses, elle dormait la nuit avec Lucrèce, le plus souvent dans les fermes auprès desquelles nous campions. Un soir que la Vivaroise était en mission à nos hôpitaux des grottes de Zé, nous avions soupe aux masses de l'Arinta près de Cassagnoles, accueillis fraternellement par nos hôtes, Jean Huguet, sa femme et sa bru. Je me rappelle qu'il faisait un froid glacial et qu'un grand feu flambait dans la cheminée de la vaste chambre au fond de laquelle on avait préparé un lit pour Florette. Et bientôt, les Huguet nous ayant quittés, je restai seul un instant avec ma chère petite. Après l'avoir baisée au front, j'allais me retirer et comme la bise rugissait dehors, elle dit « « Tu vas avoir bien froid, mon pauvre Jean, sous les hangars avec nos frères. »« Mais non, Florette, j'y serais très bien, si tu savais comme la bonne paille nous tient chaud. » Elle était toute pensive. Ses yeux, miroir divin de flamme, m'éblouirent soudain. « Si tu m'avais voulu, à la canot, lui dis-je, je ne te quitterai point la nuit, ma Florette. » Et à cette pensée, je sentais mon cœur qui battait follement. « Pourquoi dis-tu que je ne t'ai pas voulu? Tu sais bien que je dois obéir à l'ordre de l'esprit. »« Ah, l'esprit, il m'accable. Et que lui ai-je fait ?»« Tu ne le pries pas comme il faut, sans doute. Ta foi n'est pas assez ardente. Je le sens bien à certaines heures. » Aux vives lueurs du foyer, son charmant visage éclatait sur le fond sombre de la pièce. Il se parait de couleurs délicates et chaudes, nuances de rose, de jasmin, de fleurs de myrte, accusaient ses reliefs et ses creux, vivait d'une vie merveilleuse, toute de jeunesse et d'amour. Ah, qu'elle était jolie et tentante !« Florette, lui dis-je brusquement, d'une voix assourdie par la passion, vas-tu prolonger mon martyre? N'as-tu pas pitié de moi? T'es-tu promise pour te refuser maintenant? Je t'en supplie, ma bien-aimée, marions-nous demain ? Le prophète Matthieu de Cuvier bénira notre union. Tu sais bien que c'est impossible, ami. Tu sais aussi que je ne me suis pas reprise, que je suis tienne dans le fond de mon cœur et ta compagne fidèle. Saurais-je l'être jamais davantage? Je ne pus retenir un sanglot. Et le souvenir de ce qui se passa alors m'emplit encore de remords et de honte. Ah oui, dis-je, tu es ma sœur chérie, je le sais. Eh bien, je ne veux plus que tu sois ma sœur. Je souffre trop si tu n'es pas ma femme. La vie n'est plus rien pour moi, maintenant, et j'en viendrai à te haïr. » Elle me regardait d'un air grave. « Et quoi, malheureux? Tu pourrais me haïr? Tu renierais notre affection fraternelle? Ah, tu veux m'éprouver? Je ne te crois pas. » Elle eut alors le sourire qui m'enivrait. Et c'est pourquoi, sans doute, je la saisis violemment dans mes bras, je la baisai aux lèvres, la serrai à la meurtrir. J'avais perdu le sens, je portais des mains odieuses sur son corps chéri, j'étais pareil à un horrible fauve qui tâte sa proie. Elle se dégagea, souple et fine comme glisse une anguille entre les mains du pêcheur. Elle se dressa toute grande. « Oh Jean, dit-elle, tu m'as fait mal, mais je ne veux pas pleurer. J'ai honte pour toi et pour moi. Rappelle-toi notre premier baiser d'amour. Il m'en reste au cœur une joie si pure. Et tu ne respecterais pas ce souvenir sacré ? Eh bien, soit, si tu ne peux attendre la bénédiction du ministre Daniel, fais ta volonté. Je me suis promise à toi. Tu as ma parole, je suis ta servante, je t'obéirai, mais ne me brutalise pas comme un forcené. Et songe au remords de demain. » Des larmes maintenant germaient dans ses paupières, et moi je tombais à genoux devant elle, je baisais le bout de ses doigts. « Ma Florette, pardonne-moi, je ne suis qu'un être grossier, tout indigne de toi. Je t'en supplie, oublie cette heure mauvaise. Tu connais ma tendresse et que tu es ma sœur chérie pour toujours. » Elle se pencha vers moi, me baisa au front. « Va dormir, Jean, » dit-elle, « tu sais que je te pardonne. Et songe qu'à l'aube prochaine, nous aurons peut-être à combattre. » Pendant toute cette première quinzaine que nous avons passée au désert, j'ai été ainsi troublé bien souvent. Florette, d'ailleurs, s'accoutumait très vite à notre vie d'aventure, de fatigue et de privation. Elle chevauchait près de moi avec la Vivaroise, toutes deux vêtues en garçon pour être mieux en selle. Elle mangeait de grand appétit, allait de l'un à l'autre, toujours rayonnante et gaie, parlant à tous, pensant les blessés, prenant sur mes compagnons un ascendant moral incroyable. Parmi les souvenirs qui me viennent en foule, je veux noter celui de la première expédition importante que nous avons faite en Vaunage pour éprouver les puissances de Nîmes. Nous dévalions hardiment vers le Pays-Bas, en plein jour, par les chemins royaux, tambour battant. Nous portions dans nos cœurs l'allégresse de la victoire et insultions au passage les garnisons des villages qui n'osaient bouger, nous regardant de loin avec épouvante, accroupis derrière leurs murailles. Je me rappelle cette halte que nous avons faite à Saint-Mamère, quand un essaim de jeunes filles aux yeux rieurs se groupèrent sur les ruines du temple pour chanter le psaume 74e de Théodore de Bèze. « D'où vient, Seigneur, que tu nous as épars, et si longtemps ta fureur enflammée vomit sur nous tant épaisse fumée, voir sur nous les brebis de tes parcs. » Un à un, nos compagnons s'approchaient. Les habitants du village s'étaient rassemblés autour de nous. Les vieillards pleuraient, qui avaient vu le temple debout, et la foule chantait « Chacun a vu travailler ses pervers à démolir ta sainte forteresse comme au milieu d'une forêt épaisse, menant la hache à tort et à travers. » Mais voici qu'une rumeur croissante faisait taire le chant et qu'un frisson d'horreur passait sur la multitude. C'était la femme de Jean Crouzet de Fonce, belle et forte comme mère, qui arrivait, portant à la pointe d'un sabre une tête sanglante, et apostrophait l'azur comme une furie. « C'est moi qui l'ai tué !» criait-elle. « Je l'ai tué dans ma maison !» À l'écart de sa compagnie, vers notre masse, il se glissait pour la rapine. « Viens, dragon, viens, mon beau !» lui dis-je. « Mange la chair de notre porc, bois le jus de nos vignes, entre ici, la table y est mise. » Et quand il eut mangé et bu, qu'il fut saoul de vin et de viande, il voulut avec moi rire d'un peu plus près. « Aïe, 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 dragon, viens ici, viens vite, car pour toi mes bras vont s'ouvrir, et mes bras sont durs comme le fer, et mes bras l'étouffent soudain, et avec son sabre que voici, je lui ai coupé la tête. » Comme un vol de colombes au hurlement d'un loup, les jeunes filles qui chantaient se sauvèrent à travers bois, criant d'effroi. Je revois ensuite notre arrivée en Vaunage, la joie des habitants, la soirée de l'Anglade, puis le lendemain, 11 de janvier, le salut à la montagne sainte de Nage, le campement autour du château de Candiac, et le 12, la grande assemblée au mas Garafel, en vue de la tour Magne de Nîmes, quand soudainement le père Chameau de Gajan accourait hors d'haleine, criant « Enfants de Dieu, avisez-vous, les monstres d'enfer vous arrivent dessus. Monsieur de Broglio, provenant d'Anduze avec une nuée de soldats, a fait hier la pose à Gajan. Il amène le capitaine Poule, bête féroce de l'Apocalypse, commandant les dragons et traînant après lui 50 prisonniers des Cévennes, enchaînés deux à deux, par la nuque, comme des bœufs sous le joug. Frères, écoutez, je vous parle. Ils ont tout saccagé. Ils ont tué les enfants, violenté les femmes, défoncé nos tonneaux. J'eus grand-peine à m'échapper moi-même, à moitié assommé, et me réfugier sur un toit. Les dragons de Poule, ivres de vin et d'eau-de-vie, criaient « nous y voici, pourceaux de gorge noire. Il est venu le jour que nous allons vous étriper tous. Regardez notre capitaine, voilà la Poule qui nettoyera vos guérets du diable. » Et autres propos épouvantables. De ma cachette, j'ai entendu M. de Broglio disant « « Ah, ces brigands! La neige des montagnes les fait descendre dans la plaine. Ils ont l'audace de paraître en vaux nage. Mais je les suis à la piste et, puisqu'ils sont au château de Candiac, ils y trouveront leur tombeau. Ancel le dragon, qu'une escorte conduise anime les prisonniers. Nous allons nous coucher à Caveirac et demain, j'en jure par la croix, nous terminerons cette affaire. » Cavalier nous avait quittés le 11 au soir pour pénétrer dans Nîmes, déguisé en marchand et y acheter de la poudre. Il avait laissé le commandement de la troupe à Ravanel et m'avait ordonné de partir le 12 après-midi pour une mission en Camargue avec Catina. Maintenant, tout le détail me revient de cette affaire du Val de Banne, à la suite de laquelle M. de Broglio fut disgracié et remplacé en Languedoc par le maréchal de Montrevel. Je me rappelle quand Jean-Pierre Barbu du Mas de Cagarole a couru à Franc-Étrier de Beauvoisin pour nous signaler que M. de Broglio, ne nous trouvant pas au château de Candiac, se dirigeait vers le Mas Gaffarel. Nous eûmes toutes les peines du monde à rompre l'assemblée des fidèles. Ils étaient tous engagés pour rester, surtout les femmes. Elles avaient apporté à guise d'armes leurs tranchoirs, leurs broches, leurs faucilles. Elles les brandissaient, criant « Nous voulons entendre la parole de Dieu et nous l'entendrons. Qu'êtes-vous donc venu faire ici, capon que vous êtes ? Faudra-t-il que les femmes prennent vos fusils ? Ah, c'est quoi ? Ils ont peur de la poule ? N'ayez donc crainte, demi-homme, nous sommes habitués, nous, à la volaille. Vienne la géline sauvage et nous la saignerons. Zou ! Les ciseaux à la gargamelle ! » Il était 3 heures de l'après-midi. D'après les ordres de Cavalier, j'aurais dû partir à ce moment pour la Camargue, mais Florette dit « Voici le combat, frère, il faut rester, nous partirons ensuite si Dieu le permet. » Cependant, Ravanel, avec beaucoup d'à-propos, nous ordonna de nous établir à une demi-lieue au sud du Mas Gaffarel, vers les futaies de Bois-Fontaine, dans une sorte de retranchement naturel fait d'un fossé qui se nomme le Croc du Val-de-Banne. Nous n'étions guère que 200 combattants, armés de fusils, mais beaucoup d'hommes et de femmes venus des environs restèrent avec nous, armés de faux, de bâtons, de hachettes, de frondes. Ils se tenaient un peu en arrière, dans le bois, avec les chevaux. Après avoir reconnu les détails de la position, nous avions rangé nos hommes sur les bords du fossé, où coulait un maigre ruisseau formant un coude qui retranchait notre gauche. Devant nous, au-delà du fossé, s'étendait une vaste vigne en friche, dont le maître Jourdan de Millot avait dû gagner la Suisse à cause de la religion. Les pauvres vieilles souches à l'abandon disparaissaient sous un amas de roquettes sauvages, de telle sorte que, venant du grand escalion d'où forcément M. de Broglio déboucherait, dès qu'il nous aurait découvert, il n'était guère possible de deviner là une vigne. Maintenant, un silence de mort régnait, cependant que sur l'ourlet du ciel, au ponant, apparaissait la petite armée de M. de Broglio. Elle s'avançait sur une seule et profonde ligne, et les chevaux superbes battaient la glèbe avec un bruit de tempête. Au centre, on reconnaissait M. de Broglio en personne, accompagné de son fils, le chevalier. À la gauche, commandait le sieur de Ladourville, propre cousin de Madame l'intendante de Lamoignon de Baville, et la droite était sous la main du terrible Poule, qui les dépassait tous de la tête, homme géant sur un cheval géant. Certes, ce n'était plus ici l'attaque du chevalier d'Aiguin dans les prairies d'Alès, lorsqu'il s'embarrassa de ses tristes cires de bourgeois nouveaux convertis, lesquels s'enfuirent au premier choc. Nous avions devant nous l'élite des officiers du roi à la tête de leurs meilleures troupes, luttant sous les yeux du commandant militaire de la province. Malgré mes instances, Florette avait voulu demeurer près de moi. Je l'avais armée d'une carabine et d'un couteau de chasse. Elle était un peu pâle, et priait à voix basse. Je lui dis encore « Mon enfant, retire-toi, je te prie, vers les femmes qui sont dans les bois avec les chevaux, aie soin de ta cavale et, si je meurs ici, toi, fuis au galop vers la liquaire, promets-le-moi, ton père saura bien t'y cacher, tu lui diras que c'est moi qui t'envoie. Jean, mon frère, je ne crains point la mort, je resterai près de toi, que tu meures ou vives. » Je la serrai avec effusion dans mes bras. « Adoré, nous vaincrons et nous vivrons pour nous aimer. » Cependant, les dragons, nous ayant aperçus, arrivaient au pas sans se presser. Mais voici que soudain, M. de Broglio tire son épée, et l'on voit en éclair d'acier tous les sabres sortir du fourreau. Puis, sur un signe de leur chef, les ennemis fondent sur nous, au galop de charge, en hurlant comme des bêtes féroces. Ils tombent dans la vigne de Jourdan, et trois ou quatre chevaux font la culbute avec leurs cavaliers. Immédiatement, nous commençons un feu d'enfer. Notre premier rang tire, se retourne, passe entre les files des deux autres rangs, s'en va derrière le troisième recharger ses armes. Le second, devenu le premier, tire, et ainsi de suite. C'est une fusillade sans arrêt. À peine quelques dragons parviennent-ils à franchir le fossé, nous tuant trois hommes. Nous sommes dans un tourbillon de fumée, et quand tout à coup le vent la dissipe, nous voyons une mêlée indescriptible de chevaux et d'hommes, dont plusieurs gisent dans leur sang. « Enfin, commande Ravanel, le psaume des batailles est en avant !» Les tambours ronflent aussitôt, et toutes les voix entonnent le chant fameux. « Que Dieu se montre seulement, et on verra soudainement abandonner la place, le camp des ennemis épars, et ses haineux de toutes parts fuir devant sa face. » Faisant flamboyer baïonnettes et faux, nous sautons le fossé, nous nous précipitons sur l'ennemi qui ne peut reformer ses rangs. Là tombe Poule frappé à mort, la Dourville grièvement blessée, et maintes autres. Nous gagnons des chevaux, des armes, des vêtements, et bientôt la retraite des dragons se change en déroute. Quelques-uns s'enfuient jusqu'à Nîmes, y portant la noire épouvante. Les autres se retirent dans la direction de Vauvert, entraînant le comte de Broglio, qui, impuissant à retenir les fuyards, et pleurant de rage et de honte, lutte bellement à l'arrière-garde. Nous le suivons. Nous le pressons jusqu'aux Devès des Conses, emportés par la fureur des femmes, qui, dans l'incendie du couchant ensanglantant leurs faces brunes, vont à plein gosier lui crier sous le nez « La voilà ta poule, regarde, nous l'avons plumée, tu peux la manger !» Et au sortir de la bagarre sanglante, je garde encore le souvenir lumineux de notre course à Silvéréal, pour y traiter avec les manadiers de Camargue des moyens de nous former une cavalerie. Il y avait là Abdias Morel, dit Catina, Samuel de Vauvert, dit Saint-Paul, Florette, Lucrèce et moi, avec cinq de nos compagnons, dont Méric dit Sancartier Courtevie. Je revois le Mas du Diable sur la costière du Quélard, où un de nos frères, le Pelot, Martin du Mas de Pamperdu, nous attendait pour nous guider de nuit à travers les marécages, entre la tour d'Anglas et Pamperdu. Car il fallait éviter le chemin royal commandé par la tour Carbonnière en avant d'Aigues Mortes. Puis le bon repos à Pamperdu, le réveil au petit jour, la galopade en sylve godesque, l'émerveillement de Florette devant cette immense campagne plate, ses marais, ses étangs salés, ses pinèdes, ses salicornes, son mirage lointain. Et comme elle était fraîche, souple et gracieuse ce matin-là, coiffée d'un feutre, drapée d'une ample cape dont les plis palpitaient au vent. J'entends ces oiseaux inconnus qui criaient sur nos têtes. Je vois ce flamand qui monta tout à coup d'un fourré, s'éploya au soleil levant comme un étendard rose. Et quelle paix infinie! Il me semble que je revis ces heures parfaites de repos moral, de vraie béatitude. Dans la cabane de la Vernède, près de Silvréal, le manalier Cadol, en un provençal délicieux, se plaint des osards embusqués dans les marais, sur des bateaux plats, et en particulier d'un certain Malgracieux et de son complice Gonflanguille, qui sont venus la nuit enlever des chevaux. « On a beau, dit-il, n'être pas du même bon Dieu, ces choses-là ne se font pas entre gens qui se connaissent depuis l'enfance. Vous voulez des cavales, soit, alors payez-les, je ne sors pas de là. » Et moi je lui réponds, « Vous avez raison, maître Cadol, nous les paierons, mais ce sont les cavaliers que nous voudrions avoir aussi, et que ne venez-vous avec nous? Ah, quelle cavalerie nous aurions !» Bref, on était tombés d'accord, après avoir beaucoup discuté, devant un excellent repas préparé par Misérène de Cadol, elle-même laquelle s'était prise tout de suite d'affection pour Florette, et voulait à toute force la convertir. Il fut convenu que le pelot Martin s'entendrait directement avec maître Cadol, pour les enlèvements de chevaux et que le prix en serait payé d'avance. Au retour, Florette rayonnait, ivre d'azur et de grand air. Et comme nous étions rentrés à Pamperdu, où nous devions souper et coucher, et que le fidèle Méric avait emmené nos montures, elle voulut marcher un peu vers la Pinède à la tombée du jour. « Qu'il fait bon vivre, disait-elle, et que cet étrange pays me surprend et m'exalte. On y élève en liberté des chevaux et des taureaux. » Et s'ils n'étaient pas pistes, ces gardiens seraient les plus heureux du monde, tant leurs horizons sont infinis. Ils sont heureux, Florette, n'en doute pas. Ils portent légèrement leur papisme, et si Misérène voulait te convertir, c'est qu'elle est convaincue justement de la supériorité de son papisme. » Elle me regarda. Ses narines palpitèrent. Elle sourit divinement. « Grand moqueur, » dit-elle, « si je ne t'aimais tant, je te haïrais, car tu persifles toujours et ne respectes rien. Tu es un vilain libertin. » Florette, Florette, si tu me fais ce sourire qui m'ensorcelle, je te dévore de baisers. Et déjà je voulais la saisir, mais elle m'échappa, se mit à courir entre ces térébintes qu'on appelle là-bas des pételins. « Hop, Jean, criait-elle, hop, attrape-moi » Elle filait comme un jeune perdreau parmi la lande feutrée d'aiguilles de pin, et je la suivais sans pouvoir l'atteindre, éclaboussée de loin par son rire d'enfant qui remplissait l'espace doré. Et, comme elle tournait un peu la tête pour se moquer de moi, elle heurta du pied une racine à fleur de sol et culbuta sur le gazon ras. Je fus en quelques bonds près d'elle. « T'es-tu fait mal, petite fleur ?» Mais déjà elle se relevait, voulant repartir de plus belle. « Laisse-moi, disait-elle, laisse, ne me touche pas, ce n'est pas de jeu. » Je la retins tout de même, un peu de force, un peu de gré. Je m'assis près d'elle et la tirai vers moi. Dans l'exaltation de la course, son visage resplendissait, sa poitrine palpitait, ses lèvres rouges retroussaient leurs commissures, laissaient voir les dents éclatantes, ses mignonnes fossettes se creuser. Elle me sourit, et je la serrai contre ma poitrine, je la regardai éperdument. « Comme je t'aime, ma Florette, mon amante adorée, quand donc seras-tu mienne ?»« Hé, je suis toute tienne, mon Jean chéri, tu le sais bien. » « Méchante, méchante !» « Tu ne m'as pas voulu à la Cano. Oh, pourquoi ne m'as-tu pas voulu ?» Je baisai ses yeux, son front, ses fossettes, puis je la regardai encore, ne pouvant me lasser de la voir. Elle résistait maintenant. « Jean, mon époux chéri, laisse-moi, je t'en prie. Ne me fais pas tomber dans la tentation du péché. » Je ne l'écoutais point. Fou d'amour et de désir, je la baisais partout, sur le cou, sur les lèvres. Elle gémissait. « Je t'en supplie, Jean, laisse-moi. » Et j'étais bouleversé de pitié fraternelle par cette plainte d'enfant adoré. Une terreur folle me venait de lui faire mal, de la briser comme une fleur délicate, et je ne pouvais cependant dénouer mon étreinte. Je la pressais davantage, son cœur battait sur mon cœur. Elle s'abandonnait peu à peu, et la brise, on eût dit, chantait l'hymne nuptial parmi les térébintes. Mais soudain, elle se dressa, me montrant du doigt le couchant rouge où se fixaient ses yeux pleins d'épouvante. « Regarde, Jean, dit-elle, oh, regarde, aigle morte, l'enfer !» Dans le ciel de sang et de feu, le profil monstrueux d'une forteresse s'accusait en plein relief, dessinait ses créneaux durs, et sur la droite, une tour énorme surgissait, se détachait de l'ensemble, pareil à un formidable point d'exclamation fermant une phrase. C'était elle, c'était la tour de Constance, la terreur du Languedoc. C'était la tombe où tant de martyrs gémissaient sans espoir d'en sortir jamais, ou peut-être, à cette heure, expirait la malheureuse idolette. Nous tombâmes à genoux, les yeux pleins de larmes. Florette pria longuement, la tête dans ses mains, puis elle se leva, fixa sur la tour ses magnifiques yeux, et tendant son jeune être aux voix des espaces, elle dit « Je te commande, ô mon enfant, de chanter un hymne de deuil, car les prairies et les montagnes du désert sont dévastées par le fer et le feu, et personne n'y passe plus. Ils étaient là comme des frères. Chacun vivait en paix dans sa vigne et sous son figuier. Et maintenant, Naboth est lapidé, son sang coule et les chiens le lèchent. Y a-t-il un homme par ici? Je vous le demande. Y a-t-il un homme sage qui comprenne ces choses? Qu'il dise alors pourquoi ce pays est perdu et s'est juste broyé sous la meule comme l'olive mûre? Et seul a répondu l'Éternel. C'est qu'ils ont renié ma loi, et je leur mets ma boucle aux narines, et je vais les fondre au creuset, et je vais les éprouver par le feu. Je saurai alors quels sont les bons. Ils gémiront loin de ma face, et s'ils me disent « Où irons-nous ?» Je leur répondrai « Aux prisons, ceux qui sont pour les prisons, à l'épée, ceux qui sont pour l'épée, à la mort, ceux qui sont pour la mort. » Elle joignit les mains et se remit à prier. Et la ferveur de sa prière m'enveloppait comme une flamme ardente. « Ô Éternel, disait-elle, vois les souffrances de ton peuple, et laisse un peu mollir ton cœur, Regarde, on brûle tes fidèles, on leur rompt les os. Les orphelins et les veuves meurent de faim. Les adolescents levés pour ta défense périssent par l'épée, et les prisons regorgent de tes justes. Quand te lasseras-tu, ô Éternel, de nous accabler? Quand délivreras-tu les captifs? » Elle se tut soudain, prêta l'oreille un long moment, puis elle tourna vers moi son visage illuminé d'un ravissement inexprimable. « Jean, entends-tu ? » dit-elle. « Je n'entends rien, Florette. Écoute bien, écoute et mérite d'entendre. Ce sont les anges de Dieu qui chantent sur la tour pour le réconfort des captifs. » Saisi d'une émotion profonde, je plongeai toute mon âme dans l'abîme de ses grands yeux. Et alors, oui, j'en suis sûr, je ne rêvais point, alors j'entendis un cœur lointain de voix légères et délicieuses, et le chant qu'elle murmurait flottait dans l'azur pâle aux premières lueurs d'étoiles, évoquait les mélopées mémoriales de notre vieille race, et peu à peu se précisait, s'enlaçait à ce psaume de Bèze où la désolation du malheur s'éclaire d'invincible espoir. J'ai mis en toi mon espérance, garde-moi donc, Seigneur, d'éternel déshonneur, octroie-moi ma délivrance par ta miséricorde et ton secours m'accorde. Et voici que, de même, sur nos lèvres, les contours de la mélodie se dessinaient, et que la main dans la main, doucement, craintivement, nos faibles voix se mêlaient au cœur des anges. Tu es ma tour et forteresse, pour l'honneur haut de toi, conduis-moi et mène-moi, et de ces filets qu'on me dresse, garde qu'on ne m'offense, car tu es ma défense. »